Peut-être connaissez-vous le film La vie est un long fleuve tranquille. C'est une comédie qui est sortie il y a 20 ans maintenant, quelque chose comme ça. Mais dans le film, on découvre deux familles qui sont radicalement opposées, complètement opposées. D'un côté, il y a une famille au revenu modeste qui habite dans un HLM avec leurs enfants. Un d'eux s'appelle Maurice. Et il a 12 ans. L'appartement est une véritable porcherie. Les enfants fument des cigarettes et leur père boit de la bière toute la journée devant la télévision. Mais de l'autre côté, il y a une famille bourgeoise et confortable qui compte parmi ses enfants une jeune fille qui s'appelle Bernadette et qui a elle aussi 12 ans. Ils habitent dans une belle maison, leurs enfants sont polis et intelligents. Et leurs parents réussissent dans leur travail. Ces deux familles ne se seraient jamais rencontrées si une infirmière ne leur avait pas un jour envoyé une lettre contenant une véritable révélation. Dans la lettre, elle explique qu'il y a 12 ans, elle a échangé par pure méchanceté deux nouveau-nés à l'hôpital. Quel choc! Imaginez la surprise! La colère, le bouleversement. Ces deux enfants n'étaient pas ce qu'ils pensaient être. Le film continue en montrant de manière humoristique quelles sont les implications de cette nouvelle pour chaque famille. Mais ce qu'on voit aussi dans le film, c'est que ces deux enfants ont des comportements qui révèlent leur vraie origine. Après tout, ce n'est pas très difficile de regarder nos parents et de voir des similarités entre eux et nous. C'est sûr que les enfants reçoivent certaines caractéristiques de leurs parents. Il y a certaines choses qu'un enfant hérite et qui révèlent ses origines. Ses habitudes, peut-être, son intelligence, sa taille, sa forme physique, son visage, etc. Et vous alors, vous êtes enfant de qui? Est-ce que ça se voit? Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude de l'Évangile selon Jean. Et au chapitre 8, Jésus parle lui aussi de deux familles complètement opposées. Et comme dans l'exemple du film, les enfants de ces deux familles révèlent d'où ils viennent à travers leur comportement, leurs paroles et leurs désirs. D'un côté, on a la famille d'Abraham et de l'autre côté, on a la famille du diable. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible à l'Évangile de Jean, chapitre 8, et nous allons lire un texte important dans ce chapitre. On va commencer au verset 30 et lire jusqu'au verset 47. Jean 8, verset 30. Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils leur répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclave de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? » Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croirez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croirez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. On va arrêter là. Et avant de continuer, je vous invite à la prière. Seigneur, c'est notre privilège d'ouvrir ta parole et d'étudier la vérité. Seigneur, nous te prions de guider notre étude de ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière à nos sentiers. Nous te prions de nous aider à comprendre ce que tu as révélé dans ce texte et d'appliquer ce texte à notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Pour comprendre la signification de ce texte, il faut comprendre l'histoire du peuple juif à cette époque-là. On a déjà discuté ça un peu dans les dernières prédications en Jean, mais les juifs étaient le peuple de Dieu. Ça, c'est très important. Ils étaient privilégiés grâce au lien qui les unissait à Abraham. Abraham qui a été choisi par Dieu. Ils étaient le peuple élu et béni par Dieu. Ils étaient la source de la bénédiction et de salut dans la mesure où le Messie devait venir à travers eux. Pour eux, la question n'était pas « Que dois-je faire pour être sauvé ?» La question était « Que dois-je faire pour éviter de perdre mon salut ?» Vous voyez la différence? La tentation était de penser que leur héritage suffisait. Le fait qu'ils étaient liés à Abraham était leur consolation. Un enfant d'Abraham était un enfant sauvé. Mais Jésus parle de ce problème dans le texte. De ce qui est clair dans ce discours, c'est que l'héritage juif était devenu une vraie pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Et ce problème n'est pas limité aux Juifs du premier siècle. On a les mêmes tendances aujourd'hui, en tant que chrétien. On se dit, je suis chrétien, donc Dieu va me sauver. Au lieu de se dire, Dieu m'a sauvé, donc je suis chrétien. Il nous est très facile de nous attacher à un héritage et d'oublier la repentance et la grâce. Et c'est exactement ce qu'on fait bien souvent. Aux États-Unis, j'ai travaillé pendant quelques années avec un catholique athée. On avait parlé souvent de religion, et une fois il m'a dit qu'il avait plus de chances d'aller au ciel en tant que catholique athée et non pratiquant que moi en tant que protestant confessant et croyant. Pourquoi? Parce qu'il était catholique. Fils de catholique, fils d'Abraham, fils des apôtres, fils de Jean Calvin, fils d'un huguenot, fils de notre Seigneur. Dans notre texte aujourd'hui, on va découvrir que l'héritage est très important, mais on va apprendre aussi qu'un héritage est beaucoup plus que juste un nom de famille. Vous êtes enfant de qui, alors? Comme les Juifs du premier siècle, nous voudrions être considérés comme des fils d'Abraham. Pour nous, être fils d'Abraham, ça veut dire être choisi et sauvé par Dieu. Ça veut dire être dans la même foi qu'Abraham. Ça veut dire croire comme lui. Mais pour les gens du premier siècle, les Juifs, être fils d'Abraham, ça voulait dire faire partie d'une nation, d'un peuple ethnique. Regardez la logique des gens au verset 39 et 41, par exemple. Ils commencent avec leur lignage vis-à-vis d'Abraham et terminent avec leur lignage vis-à-vis de Dieu. Les deux sont inséparables. Ils disent, si nous sommes enfants d'Abraham, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants d'Abraham, donc nous sommes enfants de Dieu. Leur raisonnement est logique, c'est vraiment logique. Mais leur raisonnement est incomplet aussi. Ils oublient quelque chose de très important. En fait, Jésus leur a déjà donné le morceau qui manque. Oui, l'enfant d'Abraham était l'enfant de Dieu, mais la foi en Jésus est une condition préalable. Le raisonnement de Jésus peut se résumer ainsi. Si on croit en Jésus, on est enfant d'Abraham. Si on est enfant d'Abraham, on est enfant de Dieu. On croit en Jésus, donc on est enfant de Dieu. Vous voyez? Les Juifs ont commencé avec leur relation à Abraham, mais selon Jésus, on doit commencer avec la foi en Jésus. Alors, comment reconnaître un vrai enfant d'Abraham? Au verset 31, Jésus s'adresse à ceux qui prétendent avoir la foi, et il leur dit qu'un vrai enfant d'Abraham, c'est quelqu'un qui demeure en sa parole. Au lieu d'accepter seulement ce qui est facile à accepter, le vrai croyant accepte plutôt tout ce que Jésus dit sur la repentance, le péché et la vie chrétienne. On ne peut pas étudier la vie de Jésus et choisir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. On ne peut pas accepter ce que la Bible dit à propos de l'amour et la bienveillance et la fraternité, tout en rejetant ce qu'il dit ou ce qu'elle dit à propos de la sainteté morale. Il y a trop d'églises qui prêchent les doctrines faciles tout en rejetant toutes les doctrines politiquement incorrectes. Ils acceptent la promiscuité sexuelle, l'homosexualité, les pasteurs non-croyants et le pluralisme religieux. Ils rejettent la doctrine de l'enfer, la justice de Dieu et tous les éléments miraculeux de la vie de Jésus. Et pourquoi? Parce que la vérité ne plaît pas toujours. La vérité contredit les attentes et les valeurs du monde. Mais Jésus ajoute au verset 32 qu'un vrai enfant d'Abraham, c'est quelqu'un qui reconnaît la vérité. Il sait ce que Jésus dit est vrai. Jésus continue en expliquant que la vérité libère les gens de leurs péchés. La vérité change leur cœur, leurs idées et leurs habitudes. Au verset 39, Jésus dit clairement que la preuve du fait qu'on est enfant d'Abraham se voit dans nos œuvres. Jésus dit, si vous êtes enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Cela veut dire, mettez votre confiance en Dieu. Croyez comme Abraham a cru, avec foi. Pour Jésus, ce qui est important, ce n'est pas l'héritage physique, mais l'héritage spirituel. Un vrai chrétien démontre sa foi par ses œuvres. Il aime Dieu. Il demeure dans la parole de Dieu. Imaginez un homme qui parle chaque jour de son amour pour sa femme. Il achète des fleurs chaque jour en disant qu'elles sont pour elle. Il raconte à tout le monde combien il est amoureux d'elle. Il écrit des poèmes d'amour et il les récite tout haut chaque jour. Il n'arrête pas de la louer publiquement. Cette profession, entre guillemets, d'amour est connue par tout le monde. Mais une fois la porte de la maison fermée, il la frappe. il la dénigre. Il brise le serment de son mariage en la trompant avec d'autres femmes. Il annonce par la fenêtre qu'il aime sa femme pendant que celle-ci est allongée au sol en larmes à cause de la façon dont elle est traitée. Une profession d'amour est magnifique, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas de vrai amour derrière la profession, cette profession ne sert à rien. Les gens dans ce texte font une profession de foi apparente en Jésus. Mais Jésus reconnaît que leur profession de foi est cruse. Une vraie profession de foi est accompagnée d'une vraie repentance et d'une vraie persévérance. Dans ce texte, les gens ont prouvé qu'ils étaient asservis par leur péché. Le péché révèle l'esclavage et le péché réduit en esclavage. Ils se sont crus moralement égaux avec Abraham alors qu'ils rejettent précisément la foi qui aurait prouvé leur statut en tant que véritable enfant d'Abraham. Ce qu'ils ont prouvé, c'est qu'ils étaient des enfants illégitimes. Alors, si notre manque de foi prouve qu'on n'est pas des enfants d'Abraham, est-ce qu'il y a une autre option? Bien sûr, Jésus nous donne une autre option au verset 44, en disant simplement que si quelqu'un n'est pas un enfant d'Abraham, il est un enfant du diable. Imaginez que vous êtes un enfant et que c'est la semaine des parents à l'école. Et l'institutrice vous demande quel est le métier de votre papa et vous répondez « Il s'appelle Satan et son métier est menteur et meurtrier et il peut venir jeudi pour parler de son travail à la classe. » Ce n'est pas quelque chose dont on doit être fier. Mais ce que Jésus dit, c'est que si les gens ne sont pas des enfants d'Abraham, ce sont des enfants du diable. En fait, il y a deux façons dont notre héritage diabolique peut se révéler. On peut nier le Seigneur ouvertement et directement, ou selon ce texte, on peut confesser notre foi sans nous repentir et sans nous confier véritablement en Jésus. Quelqu'un qui confesse Jésus sans obéir à Jésus, c'est quelqu'un qui ment. Et s'il ment, il montre qu'il est le fils d'un menteur. Et qui dans ce texte est le père du mensonge? On a vu ça la semaine dernière en Genèse 3. C'est le diable, c'est Satan. C'est fort ce que Jésus dit. Mais c'est aussi nécessaire afin de montrer qu'il n'y a que deux conditions spirituelles dans lesquelles il est possible de vivre. Si on n'est pas enfant de Dieu, on est enfant du diable. Dans ce texte, Jésus dénonce la double vie qui mène ces gens. Jésus veut des vrais disciples, des gens appelés par Dieu, qui écoutent sa parole. Un vrai disciple prête allégeance à Jésus, et sa vie, sa croyance et sa foi s'accordent de manière cohérente avec sa profession de foi. Un vrai disciple persévère dans la foi qu'il professe. Pour cette raison, Jésus ne limite pas sa critique à l'hypocrisie. Il parle plus spécifiquement d'une véritable trahison. Pensez au métier d'espionnage, par exemple. Comment définit-on un espion? Souvent, c'est quelqu'un qui déménage à l'étranger, qui trouve un travail et qui vit d'une manière apparemment honnête, en prêtant allégeance à son nouveau pays comme tout bon citoyen. Mais sa vie est un mensonge. Sa vraie allégeance est tout autre. Il ne cherche pas le bienfait ou l'avantage de son pays d'adoption. Il est là plutôt pour servir son vrai maître et chercher l'avantage de son pays d'origine. Pour Jésus, notre vie révèle notre véritable allégeance. Malheureusement, il y a ceux qui confessent le Christ, mais qui le renient en même temps. Quand Jésus emploie les mots « enfants de Satan », il ne parle pas d'un groupe de heavy metal dans ce texte. Il s'adresse aux gens qui le confessent comme Seigneur, mais dont les cœurs demeurent éloignés de lui. Et vous alors, vous êtes enfant de qui? Y a-t-il une foi véritable, une repentance sincère derrière votre profession de foi? Le problème des gens auxquels Jésus parle est un problème d'identité. Ils pensent être les enfants légitimes de Dieu, la descendance d'Abraham. Mais comme Maurice dans le film que j'ai mentionné au début, ils se sont trompés. Je pense qu'on doit se poser cette question, nous aussi. Nous sommes enfants de qui? Mon but n'est pas de mettre des doutes dans votre esprit, mais je pense que c'est une question légitime et importante. Pour Jésus, et même pour la communauté chrétienne, une profession de foi publique est importante. Mais derrière cette profession de foi, il faut un engagement sincère. Romains 10, verset 9, dit que si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, vous serez sauvés. Mais le texte dit quelque chose d'autre aussi. Il vous faut croire dans votre cœur. Jésus veut des vrais disciples, pas des acteurs, pas des chrétiens de nom seulement. Pour Jésus, un vrai enfant d'Abraham, c'est quelqu'un qui n'a pas seulement le bon nom de famille ou qui ne dit pas seulement les bonnes formules. Un vrai enfant d'Abraham, c'est quelqu'un qui partage les valeurs du royaume de Dieu. C'est quelqu'un qui s'engage envers Jésus avec une vraie repentance. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est brisé spirituellement et qu'il a besoin d'un sauveur. Enfin, nous devons nous poser la question de notre liberté. Jésus dit que la vérité nous rendra libres. Et si nous sommes libres, pourquoi est-ce que nous nous accrochons à la prison du péché? Est-ce que nous confessons Christ de notre bouche tout en persistant dans notre hypocrisie? Ce que Jésus est en train de dire dans ce texte, c'est que si on est enfant de Dieu, on va vivre selon Dieu, comme des enfants bien-aimés et libres des chaînes du péché. C'est un message très simple, en fait. Jésus appelle ses enfants et il leur donne la capacité d'échapper de la prison. Notre réponse à la grâce de Dieu en tant que personne qui confesse le nom de Jésus est de sortir de la prison et de vivre comme les enfants de Dieu. Notre Père Céleste sait ce dont nous avons besoin spirituellement et il va nous le donner, afin que nous vivions une vie digne de Jésus-Christ. Vous êtes enfant de qui? La réponse à cette question est révélée par l'objet de votre allégeance spirituelle. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est toi la source et l'objet de notre foi. Et c'est toi qui nous rends libres de nos péchés. C'est facile pour nous de confesser de notre bouche que tu es Sauveur et Seigneur, mais par ta grâce, aide-nous de le croire dans notre cœur et de te suivre avec une vraie repentance. Au nom de Jésus. Amen. Mm-hmm.